Salut à toutes, salut à tous, ici Zeny pour, l'épisode final du Poké Freak Show. Alors je pourrais parler longuement pour introduire cet épisode de ces deux années chez Radio Kawa, où on me donnait du temps de parole pour pouvoir vous parler de Pokémon détestés ou oubliés. Mais je pense que je vous dois avant tout des explications. En effet, il est vrai qu'aucun épisode du PFS n'est sorti depuis janvier dernier. Et alors que j'avais une dizaine de sujets en tête, mon compteur d'épisodes est resté bloqué à 25, avec un dernier épisode sur Quillfish. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on va dire que je suis parti... en quête. Une quête qui m'a pris plusieurs mois, mais qui avait besoin de réponses afin de pouvoir produire l'épisode final de la série. Je suis parti chercher qui était le Pokémon le plus détesté de tous. Au final, nous avons parlé de 49 Pokémon différents, mais même s'ils sont bien placés, aucun ne peut vraiment prétendre au titre de Pokémon le plus détesté par les Pokéfans. Bien sûr, nous avons tout de même des candidats sérieux comme Miasmax ou Liputu, mais je pense qu'on peut faire mieux. Du coup, j'ai pris mon baluchon à la recherche du tréfonds des Pokémon les plus détestés de tous. Ma première direction a été Sinnoh. À Sinnoh, il existe une espèce de Pokémon appelé Kyonotor, mais nous l'appellerons Bidoof dans le reste de l'épisode. Bidoof est un Pokémon de la 4ème génération qui fait partie, à l'instar de Rattata ou Rattentif, des Pokémon de type normal tout nul qu'on rencontre au début de l'aventure dans les hautes herbes. Effectivement, il est souvent cité comme étant le pire Pokémon, et pour cause, il a une tête bien improbable. On pourrait penser qu'il s'est pris un coup de pelle en pleine poire à celle-là. Je pensais vraiment avoir une réponse directe, mais en arrivant, je suis carrément tombé face à l'église de Bidoof, une secte me rappelant fortement celle de Muscuscule. En fait, Bidoof est un Pokémon tellement détesté que certains lui ont voué un culte, ce qui rend les choses plus floues. Est-ce que c'est le Pokémon le plus détesté, ou le plus aimé de tous? Les joueurs casus ont choisi, la communauté sur internet aussi. Autant ne pas plus perdre de temps ici. Je voulais aussi faire un petit saut du côté de Palkia et Dialga, les deux légendaires de Sinnoh, souvent cités comme les pires de par leur design complètement grotesque. Mais je me dis que les légendaires sont un peu à part. Du coup, j'ai pris le navire vers ma deuxième destination, Unis. Honnêtement, il y a du choix dans les terres de Miasmax. Beaucoup de Pokémon auraient pu être cités, comme Muna, Poichijon, Crapustule, Marakashi, les trois singes élémentaires ou encore Exagel. D'ailleurs, la 5ème génération est celle qui a eu le droit au plus d'épisodes du Poké Freak Show. Est-ce révélateur de la qualité de la gêne, ou c'est juste que c'est la génération la plus incomprise? Élément de réponse dans les épisodes 9, 10 et 11 du Poké Freak Show. Mais en tout cas, je me suis rendu dans les tourbières de Flocombe pour pouvoir découvrir un Pokémon pas facile à trouver. Et en même temps, un Pokémon rempli d'équivoques, avec un type électrique qui sort un peu de nulle part. Je parle bien sûr de Limonde. Il s'agit d'un Pokémon de la 5ème génération avec un concept intéressant, puisque comme le prouve sa forme de Galar, c'est un Pokémon qui vous prend au piège. Mais tout comme Bidoof, Limonde est un Pokémon avec une face aplatie. Sans évolution ni pré-évo, on peut se demander à quoi il sert, et très clairement, on sera tous d'accord pour dire que sa forme de Galar le sauve complètement. Bref, je me suis rendu dans les tourbières en quête de réponses, et là, je me retrouve face à l'église de Limonde. Sérieusement? On aura ça pour tous les Pokémon? Sérieux, internet me facilite pas du tout la tâche. Troisième destination, Alola. À Alola, on a pas mal de Pokémon cités parmi les plus moches. Tanticris, Predastéri, Golgopath. Il y a clairement du choix. Mon bateau arrive à Mêlée-Mêlée. Déjà, grand ouf, on me dit qu'aucune église n'a été construite sur l'archipel. Mais j'ai quand même été déçu, car on me parle de Tanticris, Predastéri et Golgopath, de leur laideur et tout. Mais moi j'ai vu un Pokémon inspiré du symbole de Hawaï, un Pokémon excellent en stratégie, et une adaptation très intéressante d'un crustacé à la con. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'étais sans doute pas dans la bonne piste, et que c'est pas en cherchant la laideur que je trouverai ce que je cherche. Un Pokémon n'est pas détesté parce qu'il est moche, au mieux il est juste ignoré. Un Pokémon détesté, c'est plutôt un Pokémon ayant fait vivre une expérience traumatisante au joueur. Et de ce point de vue-là, j'ai peut-être une idée de qui chercher. Ah, et avant de partir d'Alola, j'ai vu que l'église de Cocombaf était en construction. Enfin bref. Du coup, j'arrive à ma quatrième destination, Johto. et plus précisément Doublonville, la capitale de la région. J'ai un rendez-vous avec Blanche, la championne de l'arène, pour parler de son Pokémon. Et ce Pokémon, c'était Crémeux. Et Crémeux est donc un Pokémon de type normal de la deuxième génération. Vendu comme la version féminine de Tauros, c'est un Pokémon qui ne brille pas par sa beauté, mais plus par sa comparaison à une vache à lait. Le lait meumeux est d'ailleurs une des spécialités de la région. Pourquoi je pensais à ce Pokémon ? Parce que pour obtenir le badge Plaine, soit le troisième badge de la Ligue de Johto, il faut affronter Blanche et son écrémeux qui est, sans aucun doute, l'un des Pokémon les plus frustrants à affronter. Possédant deux attaques clés, les aboires et surtout roulades, ce Pokémon peut one-shot toute votre équipe si vous faites pas trop attention. Beaucoup de joueurs s'en souviennent, beaucoup de Nuzlocke ont été anéantis à cause d'elle, c'est une vraie plaie. Pokémon cheaté involontairement, ou c'est ce qu'on pourrait vraiment qualifier de boss de jeu? Bref, du coup, j'ai pu voir le crémeux de Blanche, et... bah, c'est un peu léger pour un Pokémon détesté. Effectivement, il est chiant, mais ça s'arrête là. Honnêtement, je pense que je ne pourrais pas faire un épisode entier sur ce Pokémon, alors un épisode final. Mais je rentre pas non plus bredouille, puisque Blanche m'a suggéré de me rendre au Mont Argenté. Là-bas, un dresseur ancestral m'attendrait et aurait des réponses à tout. Du coup, je prends mes affaires et je fais l'ascension du Mont Argenté, cette montagne qui sépare Johto et Kanto. Je traverse les différents couloirs, pousse les roches à la sueur de mon front, exécute les différents puzzles pour, au final, arriver au sommet. Et là, je le vois. Je fonce vers cet inconnu, je m'effondre devant lui, genou à terre. « Oh, dresseur ancestral, disais-je, détenteur de 10 000 badges, réponds à ma question. Qui est le Pokémon le plus détesté de tous ?» Dans un premier temps, j'avais été interloqué. Il se contenta de juste me balancer 3 petits points et c'est tout. J'insiste, je repose ma question plusieurs fois, mais toujours la même réponse. Je commence un peu à être frustré en ayant l'impression de ce que ce snobinard se fout un peu de ma gueule. Et alors que j'envisageais de passer toute ma frustration en faisant un épisode exprès sur lui, j'ai finalement compris. Ce type-là ne me snobait pas, c'est juste que... il n'y a aucune réponse à ma question. Aucun Pokémon n'est vraiment détesté, plus qu'un autre en tout cas. En tout cas, ça serait injuste puisque tous les Pokémon, et je dis bien tous, ont une petite once de valeur, qu'on ne voit pas forcément au premier regard, mais qui existe, et quand bien même, c'est stupide de chercher le Pokémon le plus détesté, parce qu'au fond, nous avons tous nos propres critères qui fait que notre jugement face à un Pokémon sera différent par rapport à un autre. Alors que tout ceci, c'est un peu ce que j'explique durant ces 25 épisodes au final. Je me fais avoir par mon propre jeu. Bref, finalement cet épisode sera un peu court. Je remercie donc ce dresseur ancestral, et je commence à descendre du mont en réfléchissant à comment je ferai cet épisode. Un épisode qui ne traitera finalement pas d'un Pokémon, mais d'une globalité. J'imagine déjà comment je vais tourner tout ça et quelle sera ma chute. Je vois à ce moment-là que le soleil est en train de se coucher. Ce crépuscule qui marque finalement la fin de 2 ans d'analyse de Pokémon. Une page se tourne, mais les enseignements que j'ai essayé de vous inculquer resteront bien là. Je me dis que je préparerai l'épisode le lendemain, mais en attendant il fallait que j'aille dormir sur place. Donc de me cacher dans une petite caverne, j'installe mon sac de couchage, prépare un peu à manger, lorsque soudain, je me retrouvais face au sujet de mon épisode final. Salut à toutes, salut à tous, ici Zeni pour le 26e épisode du Pokéfreak Show. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un Pokémon qui a bien emmerdé les premières générations de joueurs, que ce soit par ses capacités, son omniprésence et son petit cri strident. Aujourd'hui, nous allons parler du Pokémon le plus haï par des générations de joueurs, à savoir le Pokémon numéro 41, Nosferapti. Nosferapti est un petit Pokémon à l'apparence d'une chauve-souris bleue, plus précisément une chauve-souris vampire, une race présente en Amérique latine. Mais la comparaison avec la chauve-souris vampire nous vient surtout du Pokédex de Ruby et Saphir, qui nous parle beaucoup de sa haine du soleil. Il est aussi à noter que Nosferapti ne possède pas d'yeux ni de nez, et toutes les entrées du Pokédex s'accordent à dire qu'il s'oriente à ses ultrasons. Cette capacité, elle, se base sur une idée reçue comme quoi les chauves-souris seraient aveugles. Alors cela se base bien sur une légende urbaine. Les chauves-souris voient très bien, mais utilisent bien leurs ultrasons pour pouvoir se repérer dans l'obscurité. Parce que si c'était le cas, Batman serait pas si exceptionnel que ça. Hein. Heureusement, cette erreur est réparée dès son évolution, puisque Nosferapti gagne des œufs au niveau 22 en évoluant en Nosferalto, une chauve-souris avec une très grosse bouche, puis évolue grâce au bonheur en Ostenfer, que paradoxalement, on peut considérer comme l'un des Pokémon les plus populaires de la deuxième génération. Comme quoi, l'évolution peut beaucoup aider. Au passage, saviez-vous que Nosferapti devait avoir initialement une pré-évolution ? Il s'agissait d'un Pokémon formé de deux ailes, une bouche, et c'est tout. On comprend pourquoi il n'a pas été gardé. Bref, je vous ai fait un petit portrait robot de Nosferapti. Un Pokémon qui semble tout à fait banal, s'inspirant d'un animal existant, rien de bien foufou au premier abord. Nosferapti n'est même pas un Pokémon particulièrement moche. Il n'est pas fort, mais évolue en Ostenfer qui est plutôt bien classé. Le concept est ni bon ni mauvais, bref, c'est un Pokémon plutôt voué à rejoindre Paras ou Soporifique dans la liste des Pokémon qu'on s'en fout un peu de la première génération. Mais comme je l'ai dit en introduction, l'apparence ne fait pas tout. Et vous parlez de Nosferapti à un fan de la première heure de Pokémon, il n'aura pas que de très bons souvenirs. Alors Nosferapti a la particularité d'être l'un des Pokémon les plus apparus dans le jeu, à l'exception de Noir et Blanc, XY et Épée au Bouclier, où il a été remplacé par l'autre Pokémon Chauve-Souris, Chauve-Sourire. Mais à part ces trois versions, il faut vous habituer à en voir en masse dans toutes les cavernes des différents jeux. Cependant, pour bien que vous compreniez le problème, je ne décrirai ici que l'exemple du Nosferapti au Mont Sélénite, la première grotte des jeux Rouge, Vert, Bleu et Jaune, ainsi que Rouge Feu et Vert Feuille. Donc le Mont Sélénite est une étape qui survient assez tôt dans le jeu, juste après le premier badge à Argenta et juste avant le second à Azuria. Et alors que nous étions habitués à voir les mêmes têtes jusqu'à présent, dans cette zone nous pouvions rencontrer que des nouveaux Pokémon tels que Melofé, Paras, Rakeyu et Nosferapti. Mais genre beaucoup, beaucoup de Nosferapti. Entre 54 et 79% de chances de rencontre selon l'étage dans lequel vous vous trouvez. Et pour une zone où littéralement toutes les cases peuvent mener à une rencontre, ça fait beaucoup. C'est simple, vous n'étiez jamais à l'abri de faire face à ce Pokémon, quel que soit l'endroit où vous vous déplaciez. Rajoutez en plus le fait que, contrairement aux grottes dans les jeux plus récents, le Mont Sélénite était un vrai labyrinthe où vous pouviez marcher pendant de longues minutes pour découvrir que vous partiez vers un cul-de-sac, et vous avez déjà une idée de pourquoi Nosferapti agaçait autant les joueurs. D'ailleurs, on retrouvait le même pattern dans les autres grottes des 4 premières générations, avec des Nosferapti presque omniprésents, partageant parfois même la vedette avec son évolution, Nosferalto. Mais le côté labyrinthique, plus le fait que c'est le premier cas, donne au Mont Sélénite un côté encore plus spécial et agaçant. Mais en vrai, ce taux de rencontre abusé ne fait pas tout, car bon, Nosferapti est très omniprésent, mais un Pokémon tel que Chuchmur a un taux de 100% dans sa caverne, donc ça veut pas dire grand chose au final. En fait, Nosferapti, en plus d'être très agaçant en simplement marchant, a la particularité d'être également très agaçant à combattre. Imaginez bien, dans le Mont Sélénite, les Nosferapti sont entre le niveau 6 et le niveau 12. Et un Nosferapti niveau 12, ça ne connaît que deux attaques, Ultrason et Vampirisme. Ultrason est une attaque qui rend fou l'adversaire, ce qui fait qu'il peut se taper dessus plutôt que de taper l'adversaire. Pas très cool, donc, rien que pour le fait de perdre un tour. Et son autre attaque, Vampirisme, draine un tout petit peu de dégâts à l'adversaire, ce qui fait que Nosferapti est un Pokémon qui peut bloquer le vôtre, tout en essayant de le battre très lentement. Si bien que vous pouvez finir au stade où vous aimeriez qu'il en finisse rapidement et qu'il batte votre Pokémon. D'ailleurs, Nosferapti n'était pas le seul Pokémon chiant de cette grotte, puisque Rakeyu, avec sa boule armure, aussi pouvait éterniser un combat. Sauf que, à la différence de Rakeyu, Nosferapti a aussi une particularité qui nous achève de penser que c'est sans doute le plus chiant de tous les temps. Vous avez battu après 20 bonnes minutes de combat pour un tout petit peu d'XP. Pour vous donner des chiffres, Nosferapti a une base d'expérience, soit la base qui permet de calculer le nombre d'XP que recevra votre Pokémon après le combat, de 54, ce qui en fait le pire total de la première génération devant Aspicot, Chenipan et Magikarp. Donc au final, vous avez passé de longues minutes à affronter cette chauve-souris de merde pour seulement quelques cacahuètes. Autant vous dire que vous ne prendrez absolument aucune satisfaction à l'affronter. Si ce que je vous ai raconté vous suffit pour comprendre pourquoi tout le monde déteste ce Pokémon, laissez-moi finir avec deux derniers points. Déjà, si c'est un Pokémon qui a du mal à vous battre, ça veut dire aussi que c'est un Pokémon très désagréable à lancer en combat. Sa première bonne attaque, Morsure, arrive certes au niveau 15, mais vous allez voir que vous détesterez le mener jusqu'à ce niveau-ci. Et encore, vu sa base en attaque ridicule, vous allez plutôt désespérer de le mener jusqu'au niveau 22 pour qu'il évolue. Bref, il est chiant quand vous vous baladez, il est chiant quand vous l'affrontez, et il va rendre vos combats encore plus chiants. Bon après, ce n'est pas non plus un Abra ou un Magikarp, mais quand même. Et puis le second point, c'est... ça. Son cri. Un cri très strident qui vous perce bien les oreilles. Comme s'il avait été fait pour être le plus chiant possible, même d'un point de vue auditif. Et vu que sa présence finit par être associée à un moment très énervant gratuitement, ça rend le bruit encore plus strident à vos oreilles. Bref, je pense qu'avec tout ça, il n'y a pas trop de doutes concernant Nosferapti. Il est clair que Game Freak pourra difficilement faire pire que lui. Son évolution est un concurrent honorable aussi, mais l'aura de Nosferapti est trop forte, et on ne peut pas lui retirer le prix de Pokémon le plus haï de tous les temps par de nombreuses générations de joueurs. Bravo à lui, je suppose. Mais bon, vous connaissez le concept de cette émission, savoir qu'il est chiant est une chose, essayer de comprendre pourquoi il est chiant en est une autre. Et clairement, même si on sait que Rouge et Bleu étaient des versions très mal équilibrées, notamment au niveau des types, ça fait quand même beaucoup trop d'éléments. Nosferapti n'a pas pu avoir cette réputation par hasard, ça a forcément été une décision délibérée de lui donner tout ça. Alors, est-ce que Nosferapti est un Pokémon volontairement agaçant? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler d'un truc. Un truc qu'on oublie un peu et qu'on n'a que très peu invoqué dans cette émission, mais pourtant c'est une évidence qui est bien de se rappeler. Pokémon, c'est avant tout un jeu vidéo. Un jeu vidéo dont les produits dérivés ont énormément pris le pas sur le contenu initial, certes, mais Pokémon est avant tout un jeu vidéo. Et davantage Pokémon durant la première génération, puisque tout le reste est arrivé après la production des jeux. Là où pour les autres générations, les produits dérivés sont forcément dans un coin de la tête des concepteurs. Et du coup, qui dit jeu vidéo, dit un contenu qui répond à des notions de game design. Pareil, ça c'est important de le rappeler. Beaucoup de Pokémon ont été avant tout conçus pour répondre à ce genre de notions. Ronflex par exemple, avant d'être le gros nounours bien glouton qu'on connaît, était surtout un obstacle à supprimer dans le jeu. Si Chenipan évolue aussi tôt en Crisacier, c'est pour qu'on fasse face au concept d'évolution très tôt dans l'aventure. Pourquoi eau, feu et plante au début? Déjà pour avoir trois types qui forment un cercle de puissance, pratique pour que votre rival ait toujours les Pokémon les plus difficiles à affronter. Également un cercle de puissance assez évident pour le début du jeu. On sait tous que l'eau bat le feu brûle la plante, et on finit par accepter que la plante bat l'eau. Mais aussi parce que c'était les trois types les plus faciles à adapter pour le début du jeu, notamment au niveau des arènes. Ainsi Bulbizarre qui roule sur les deux premières arènes et le mode facile, Carapice qui ne gère que contre la première arène et le mode moyen, et Salamèche est tout simplement le mode difficile. Bref, on pourrait discuter longuement sur le pourquoi de la présence de certains Pokémon à certains endroits, leur rôle à travers le jeu, etc. Mais c'est un aspect assez fascinant de Pokémon Bleu et Rouge qui peut expliquer pas mal de choses dans les premières versions. Et pour revenir un peu à notre sujet du jour, Nosferapti est complètement là-dedans. Mieux encore, Nosferapti a une place importante dans l'équilibrage des jeux à Kanto. Parlons un peu du concept de game design appelé le flow. En gros, le flow est une théorie qui stipule que le jeu vidéo se doit d'être avant tout un équilibre. L'équilibre entre l'ennui et l'anxiété. En gros, un jeu trop facile est un jeu ennuyeux. Un peu aujourd'hui avec épée et bouclier qui est trop simple, et du coup on s'en lasse trop vite. A l'inverse, un jeu trop dur ou avec trop de contraintes, ça nous plaît pas non plus, donc on arrête. C'est avant tout un équilibrage qui peut évoluer au fil des jeux en fonction des compétences de l'adversaire. Le concept a aussi beaucoup évolué au fil des années puisque les attentes des joueurs dans les années 90 étaient différentes de celui des joueurs aujourd'hui. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Si un jeu est trop difficile, on y ajoute quelques moments de répit comme dans Dark Souls, et quand un jeu est trop simple, on y ajoute un peu de frustration pour pimenter tout ça. Et du coup, cette armée de Nosferapti joue justement dans la frustration du joueur, ce qui rend le parcours du joueur dans le Mont Sénith le moins agréable possible. Et au fond, ça paraît même réaliste, car à la place de notre avatar, on détesterait sans doute aussi faire un passage dans une grotte sombre, même si motivé par la quête de l'inconnu. Et du coup, une chose est sûre, lors de mes premières parties sur Pokémon Bleu, mon moment le plus satisfaisant de tous a été le moment où j'ai quitté cette grotte pour arriver à Azuria. Est-ce que cette montée de dopamine a été le moteur qui a rendu toute la suite de l'aventure encore plus savoureuse? Genre j'estimais que le jeu était génial à partir de ce moment-là? Sans doute, et c'est sans doute grâce aux agressions de Nosferapti. Mais en plus, c'est intéressant de voir que Pokémon n'est pas le seul jeu à utiliser cet outil. Comme l'a dit un article du journal virtuel Cracked en 2008, tous les jeux à la première personne semblent avoir ces tout petits ennemis qui t'agressent, qui sont durs à battre et pire que tout, qui sont insatisfaisants à tuer. On a les rats de Skyrim par exemple, mais aussi les chauves-souris dans Final Fantasy, Zelda, Castlevania, ou même tout simplement Pokémon noir et blanc puisque Nosferapti a été remplacé par une autre famille de chauves-souris. Tous chiants à battre, parfois même avec une caractéristique qui les rend encore plus filous, comme le vol d'objets ou l'alternation de statues. Bref, une belle saloperie, mais des saloperies qui ont été designées pour rendre une partie de jeu la moins agréable possible, tout ça pour une question d'équilibre. Donc au final, au vu de tous ces éléments autour de Nosferapti, il est clair que c'est un Pokémon volontairement détestable. Mais au fond, vu que c'est une question d'équilibre, est-ce que ça prouve une chose, que le reste de l'aventure est trop agréable, que les jeux Pokémon ont une aura trop belle, qu'il a fallu rééquilibrer de toute urgence? Je me souviens que la route 3, donc celle qui a suivi Argenta et précède le Mont Salinite, était cool et on roulait pas mal sur les différents dresseurs. Mais c'est vrai que ça en devenait un petit peu ennuyeux. Donc c'est peut-être ça que cette petite chauve-souris est venue équilibrer, pour éviter qu'on ait l'impression de faire un jeu où il faut juste battre des gamins en short. Bref, Nosferapti est un Pokémon détestable à tous les niveaux, et finalement, c'est pour ça qu'on l'aime. Merci d'avoir suivi cet épisode final du Pokéfreak Show, avec un Pokémon dont je voulais écrire un truc dès le début. Mais il est clair que je pouvais pas mieux finir. Le Pokéfreak Show, qui durant ces deux dernières années a cherché à analyser des Pokémon détestés ou oubliés du grand public, finit par discuter du némésis ultime des fans de la première heure. C'est plutôt beau. J'espère en tout cas que l'aventure Pokéfreak Show vous aura plu et que votre vision de certains Pokémon aura définitivement changé. En tout cas, ça a été un très grand plaisir d'animer ces petites pastilles de 20 minutes et de vous montrer que Pokémon, ça peut s'analyser en détail. Évidemment, tous les épisodes sont toujours accessibles et le seront toujours sur Internet. Avant de tirer ma révérence, je tiens à faire quelques remerciements. Déjà Radio Kawa qui n'est mort que sur le papier mais qui restera toujours vivant dans nos cœurs. Chikamaran pour m'avoir poussé à lancer cette idée folle. Inks, Valoka et les autres chefs du réseau pour m'avoir fait confiance et m'avoir bien guidé au sein de la structure. Lou qui m'a, mine de rien, fourni une bonne partie de mes sources grâce à son bouquin. Tous ceux qui ont pu m'aider durant ces 26 épisodes, que ce soit en participant à la production des épisodes comme en consultation. Et puis bien sûr, le public qui m'a soutenu dès le début. Le Pokébrick Show non plus n'est pas tout à fait mort, il reviendra sans doute un jour. Mais en attendant, vous pouvez retrouver Toutou et moi dès septembre prochain pour la prochaine saison de Radio Kalos, votre web radio francophone sur l'actualité Pokémon. A très bientôt tout le monde! Thank you.